Joie sublime, nous mangeons des frites et du poulet avec du ketchup ou de la mayonnaise. Nous allons sur la plage et nous faisons des petits châteaux et nous mettons de l'eau dans la rigole alentour pour défendre le château. Et nous attendons que les vagues assaillent le château et nous voyons que notre château résiste. Quelle joie nous avons! Et puis, il y a parfois, j'ai connu ça, dans les études supérieures, chic, on va faire un beau voyage en Norvège, dans les fjords. Chic, on va avoir un enfant. Il y a d'autres choses. Madame est au travail, monsieur a des congés. Chic, je m'en vais 3 jours en avion et je vais voir ma maîtresse. C'est toutes des choses que j'ai rencontrées dans ma vie. Je suis confronté à ça dans le ministère, à toutes sortes de joies. Ça, ce sont les joies des humains. Et puis, il y a le contraire des joies. Zut! Madre mia! Le facteur a encore déposé 3 factures aujourd'hui dans la boîte aux lettres. Facteur égale facture. Hier, il m'a déjà donné un recommandé pour les contributions qui me réclament un retard. Zut! J'étais bien, il y avait du soleil. Au mois d'avril, c'est très bien. Je suis gai, il y a du bon vent. J'ai ouvert les carreaux, j'ai roulé et au soir, j'ai une angine. Et je dois rester au lit le lendemain. Avec de la fièvre. Oh, ma pauvre joie s'est envolée. La joie du soleil, la joie de la liberté dans la voiture avec des courants d'air. Et puis, il y a aussi des catastrophes. On est venu souvent, tout près de moi, pour des catastrophes. Mon copain, je vivais 8 ans avec, il m'a quitté pour une autre. J'ai perdu mon boulot. Est-ce que vous ne voulez pas m'aider à le retrouver? J'ai le coronavirus. Et je ne sais pas quoi faire. On pourrait, chers amis, continuer toute la liste des joies, des petits malheurs et des grands malheurs. Cela semble être notre destin. Des enchantements, des plaisirs, et puis des désillusions, des désenchantements, des tracas, des soucis. Des joies qui nous rendent heureux et des soucis qui nous rendent malades. Cette vie, chers amis, ne peut pas me satisfaire. Depuis que je suis jeune, je n'ai jamais aimé ce genre de tiercé où on gagne une fois et on perd l'autre fois. Je vais à la tombola, je gagne 10 euros, le jour d'après j'en perds 15. Et pour finir, au bout de 5 ans, j'ai toujours perdu ce que j'avais gagné. Ce n'est pas le genre de vie qui a pu me satisfaire. Ça ne comble pas mon besoin d'infini. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, Dieu a mis un désir d'infini, d'éternité dans le cœur de l'homme. Il l'a gravé. Et je le laisse parler. Les joies, les petites joies éphémères, ou parfois durables, ne me satisfont pas parce que je sais qu'elles ont une fin. Et que parfois elles correspondent à un besoin du moment, et qu'après, j'ai d'autres besoins, j'ai d'autres idées. Et je suis variable comme le coq sur un clocher qui tourne suivant le vent. Je suis une girouette dans mes désirs et mes plaisirs. Donc la joie n'a rien à voir avec les joies. Si je l'ai cru tout un temps, j'ai craqué. J'ai eu des angoisses et je vais vous dire, beaucoup de personnes en restent là. Ne vont jamais vers Dieu, vers l'infini, ne recherchent vraiment pas l'adoration de Dieu et la communication, la communion avec Dieu. Et ils restent dans une période de cyclothymie, angoisse, réjouissance, etc. Et ils ne savent jamais de quoi est fait le lendemain. Et finalement, lorsqu'on voit le coronavirus, même quand le confinement sera fini, les responsables politiques nous disent que le virus sera toujours là, il faudra le masque. Et qu'il peut redoubler de plus belle. Donc, serais-je encore heureux désormais? Voilà la question. Serais-je encore dans la joie? M'arrivera-t-il encore? Quand le confinement va être fini, je présume qu'il y aura beaucoup de barbecues, et beaucoup de bonnes chopes et de bouteilles de vin. Mais cela est-il la vraie joie? Je pense que les hommes et les femmes ont besoin de distraction, de joie, mais ont-ils compris que la vraie joie est la seule qui peut les remplir?
C'est Christ.
Je vous pose la question, c'est donc quoi la joie et le bonheur? Qu'en disent les prophètes? Qu'en disent les apôtres? Qu'en dit Jésus? Longtemps j'ai pris Jean Ferrat pour un prophète de mon cœur. Que ferais-je sans toi? Ce beau chant. Je l'ai aimé, je l'ai écouté beaucoup. Que ferais-je sans toi? C'est un chanteur que j'aime beaucoup, Jean Ferrat. Et puis j'ai vu un film dernièrement où sa première femme a été mise de côté pour une autre. Et cette femme, à environ 50 ans, est morte du cancer. Malheureuse. Alors, quand je pense à cette chanson qui a toujours réjoui mon cœur, « Que ferais-je sans toi ?» C'était la première ou la deuxième? Je prends cette chanson-là pour quelqu'un d'autre. Non pas pour un amour éphémère, un amour que j'ai idéalisé et puis que j'ai mis de côté pour un autre, mais je le pense pour Jésus. « Que ferais-je sans toi, Seigneur Jésus ?» Et je vais vous dire, depuis l'âge, très tôt, depuis l'âge au moins de 16 ans et surtout à 18 ans, je peux le dire, « Que ferais-je sans toi, Seigneur Jésus ?» Ça, c'est ma chanson. Et quand j'écoute Jean Ferrat, c'est pour Jésus. Que disent donc les prophètes? Les prophètes de la Bible certifient que la joie et le bonheur sont possibles. Nous allons choisir un texte dans Néhémie. Néhémie est un texte qui se trouve avant les psaumes, avant Job, avant Esther. Juste avant Esther, Job et les psaumes. Néhémie. Néhémie est gouverneur d'un pays qui se reconstruit. En 535, Cyrus, le roi de Perse, donc l'Iran, qui a envahi en 536 avant Jésus, grâce à son général Darius, il envahit en une nuit tout Babylone et il a pris tous les pays qui dépendaient de Babylone. Cyrus a donné un mandat, un chèque en blanc, à ses responsables juifs, Esdras et Néhémie, pour qu'ils aillent reconstruire le temple et la ville de Jérusalem, aux frais de Cyrus et aux frais de toutes les satrapies, donc de tous les pays qui étaient alentour de Jérusalem. C'est un événement majeur parce qu'il a été annoncé déjà par Ésaïe en 780 dans des prophéties. Il a été annoncé par Jérémie avant l'exil, avant 605, en 660. 640, 680, Jérémie avait annoncé qu'il y aurait une déportation pour 70 années, 70 ans, concernant le peuple d'Israël et qu'il fallait se soumettre. Il fallait se laisser conduire en exil, c'était une punition pour tous les égarements et désobéissances, et puis ils pourraient revenir. Ils n'ont pas voulu. Ils se sont révoltés, si bien que Nebuchadnezzar a emmené énormément de prisonniers en 605, en 603 et en 598, 598, il a rasé la ville. Il n'a laissé que les pauvres, des petits, des tout petits de la société. Tout le reste était déporté. Si bien que tout ce peuple qui parlait hébreu et qui partit en Babylonie, quand il est revenu 70 ans après, selon ce que Dieu avait prévu et annoncé par Ésaïe et Jérémie, ne parlait plus hébreu et parlait la langue de Babylone, l'araméen. Dans Néhémie chapitre 8, que je vous inviterai à lire attentivement chez vous. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Donc nous sommes à Jérusalem. La porte des eaux, c'est une des 12 portes de Jérusalem. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Donc le livre de la loi de Moïse, c'est la Torah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est la Torah. le livre de la loi pour les Juifs. Et le prêtre Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. En sachant que le premier mois, c'est avril, compté, je pense que nous sommes... En quel mois? Avril?
Octobre.
En octobre, comme dit ma femme, oui. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. N'oubliez pas que la porte des eaux, c'est là que Jésus a guéri quelqu'un, hein, tout près de la piscine, aux cinq portiques. Hein. N'oubliez pas, c'est pas pour rien. Il y a une relation à faire. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Pourquoi est-ce qu'ils sont attentifs? Parce qu'ils sont plus bigots que nous à l'heure d'aujourd'hui? Non. Parce que tout simplement, ils sont 43 000 à être revenus de tous les pays qui étaient sous la dépendance de la Perse, donc de l'Iran. Iran, Afghanistan, c'était la Perse, les Mèdes et les Perses. Et donc, ils étaient en exil. Ils étaient déjà de la deuxième, troisième, quatrième génération, peut-être, et ils sont revenus avec la joie dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'approbation de Cyrus, ils avaient de l'or et de l'argent venant de Cyrus, ils avaient toute la vaisselle sacrée du temple avec eux, ils avaient tout ce qui était dans le temple avec eux, et ils avaient la protection de l'empereur. Et ils avaient vu la réalisation des prophéties faites par Ésaïe et Jérémie. Donc, ils étaient forts dans la foi à cause des prophéties réalisées. Ce n'est pas par hasard si je vous parle de ça. Parce que Jésus avait dit qu'il serait arrêté par les prêtres et livré aux impies, aux païens, et puis qu'il mourrait, qu'il ressusciterait le troisième jour, selon les Écritures. Et il est ressuscité. Quelle a été la joie des apôtres? La joie des apôtres a été... De la même façon, fondée sur les prophéties. D'ailleurs, en Luc 24, on voit que Jésus prend toutes les prophéties le concernant dans la loi, donc Moïse, les psaumes, les prophètes. C'est la même démarche qui inspire la joie. C'est l'enracinement dans les prophéties qui sont réalisées. C'est l'enracinement dans l'autorité divine. C'est l'enracinement dans la reconnaissance et l'action de grâce envers un Dieu vivant qui, quand il a dit quelque chose, l'accomplit. Donc c'est une source de joie, non pas pour les incrédules, ceux qui doutent, mais pour ceux qui ont la foi. C'est pour ça que j'ai pris ce texte de Néhémie. S'ils sont heureux d'entendre la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont vu, ils ont foi dans le Dieu vivant. C'est pas simplement pour lire le livre de la loi et appliquer des règlements. Je ne pense pas qu'on aurait arrivé à réunir tout le monde, ou ils se seraient tous débinés, comme on dit, pendant la journée. Mais ils sont restés. Donc, au verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, sur un pupitre. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Ce n'est pas de la fiction. Ils viennent de revenir d'un long exil. Et l'accomplissement des prophéties vient de se réaliser. Ils ne sont pas dans la fiction, ils sont dans le réel. Quand, dans Ésaïe, chapitre 66, Dieu dit qu'en un seul jour, Israël sera créé, une nouvelle nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Nations Unies, qui s'appelait à cette époque-là Société des Nations, ont permis la création d'Israël en un jour.
En quelle année, ça?
C'est le 16 mai 1948, Israël a été créé. Et trois ans avant, Hitler mettait encore les Juifs au four. Vous voyez l'autorité de Dieu qui a libéré Israël, le peuple juif, de l'exterminateur de Satan via les nazis, et qui a donné la terre, qui a redonné la nation et qui a remis la langue hébraïque sur le territoire après 26 siècles où on ne parlait plus du tout l'hébreu là. Voilà encore un miracle. L'histoire d'Israël, du peuple juif en soi, basée sur les prophéties et leur accomplissement, est un miracle. Et ce miracle suffit pour démontrer l'existence de Dieu. C'est pour moi donc une source de joie que d'avoir foi en ce Dieu vivant qui a fait des prophéties, qui les accomplit et qui exécute sa parole. Je ne peux pas en dire autant de tous les hommes, ni de moi-même. Alors, au verset 8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, forcément, ces gens parlaient araméen, ils revenaient de Babylone, et dans le texte qu'ils lisaient, c'est en hébreu. Il fallait donc que Esdras et ceux qui étaient avec lui, des prêtres et des lévites, fassent la traduction et le commentaire. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et ils dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Il y a de quoi pleurer, parce que dans Deutéronome chapitre 28, toutes les sanctions qui leur étaient arrivées avec la déportation avaient été annoncées. Ils n'en avaient pas tenu compte. Ils s'étaient moqués de Dieu. Et donc, il y avait de quoi pleurer. Ils se seraient bien évités de grands malheurs en obéissant à Dieu. Alors, voici, je continue à lire. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alors, ce verset est extrêmement important. La joie de l'Éternel sera votre force. C'est la joie de quoi? De qui? La joie de Dieu, d'avoir démontré sa puissance, d'avoir accompli les prophéties qui avaient été données à Isaïe et à Jérémie, et qui avaient été données à Israël. La joie de Dieu, de montrer à des hommes qu'il est le vrai Dieu vivant, et que tous les autres dieux sont des dieux morts, qui ne peuvent pas prophétiser, qui ne peuvent pas accomplir de tels miracles. La joie de Dieu, c'est l'expression même de sa puissance et de sa gloire. C'est l'expression même de son autorité souveraine et bienveillante, miséricordieuse envers Israël et envers ceux qui croient en Jésus par la suite. Alors les Lévites, donc ceux qui aident les prêtres, calmez tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Donc il faisait une espèce de crise, de mélancolie, de tristesse. Et ils étaient retournés dans tous les sens. Et les responsables leur disent « Mais il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas vous laisser aller à des états pareils. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, donc des parts aux autres, et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la joie naît d'un Dieu vivant qui accomplit ses prophéties. Deux, que la parole est apportée par Esdras et Néhémie, de véritables serviteurs honnêtes. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit. Heureux le serviteur que je trouverai quand je reviendrai, qui donne de la nourriture à ceux qui sont invités. Heureux ce serviteur. Aujourd'hui encore, celui qui sert la parole de Dieu et qui la donne honnêtement et droitement, il sera béni. Il est béni de Dieu. Il est l'instrument de Dieu pour que le peuple ne soit pas dans le désespoir, dans le tourment, dans l'affliction. C'est ce que, de ma part, vous pouvez espérer. Tout ce que je donne comme enseignement, c'est pour votre joie profonde. Ce n'est plus les joies donc, que je vous ai citées quand on peut faire un étalage pendant des heures et des heures. C'est une joie profonde, basée sur un vrai Dieu vivant, unique, un seul, qui a tout créé. Et nous voyons que la parole a été donnée. Nous voyons qu'il y a eu un accueil sincère et humble, partagé dans tout le peuple, on l'espère bien pour la Gaume, pour toutes nos régions ici, qu'il y a un partage humble, convivial, sincère à la parole de Dieu. Ça s'appelle un réveil spirituel. Je l'espère depuis de tant d'années. Parce que Dieu l'espère, Dieu le désire. Et puis il y a deux dirigeants intègres, Esdras et Néhémie, qui aiment Dieu, qui aiment le peuple, qui aiment la parole, et qui ont des collaborateurs qui partagent cette conviction, cette foi de cœur. Et puis il y a un repas fraternel, joyeux. C'est un moment simple. Rappelez-vous Jésus à Cana. C'était un moment très simple. Il a rendu l'événement joyeux en donnant de bons vins. Rappelez-vous quand Matthieu Lévi, le percepteur d'impôts, sinistre personnage qui travaillait avec les Romains, l'accueille à table, il y a plein de gens un peu tordus dans tous les sens du mot. Eh bien, Jésus est joyeux, il leur apporte le salut et Matthieu devient, Lévi devient Matthieu, l'apôtre Matthieu, celui qui a rédigé l'évangile de Matthieu. Rappelez-vous pour Zachée, percepteur d'impôts, qui reçoit Jésus chez lui alors que tout le monde le déteste, parce que c'est un trouble-fête. Il persécute les gens avec ses abus. Eh bien, Zachée l'invite à table, ainsi que tous ses copains, taillés dans le même bois que lui, et Jésus change son cœur. Jésus, lors d'un repas aussi, apporte la joie à ce Zachée qui devient un enfant d'Abraham. Ça veut dire que lors d'un repas, un repas fraternel, tout simple, où on peut échanger, on peut partager la joie du Seigneur, du Dieu vivant. Et on peut trouver le bon moment de la conversion, le bon moment de changement de vie qui va rester, qui sera définitif et qui sera joyeux. Et il y a un refus de l'affliction. Rappelez-vous, les Lévites disent « ne vous affligez pas ». Taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez pas. Il y a un refus de l'affliction. Sachez bien qu'un triste saint, un saint triste est un triste saint, un chrétien, une chrétienne qui traîne sa tristesse partout, devrait être exhorté pour sortir de cette affliction. Il faudrait qu'il sorte de cette affliction. C'est Jésus qui lui demande. C'est Jésus qui veut lui donner sa joie. Le chapitre 9 de Néhémie semble assez étonnant. On pourrait croire qu'il devrait être mis avant le 8. Inverser le 8 et le 9. Alors, dans le chapitre 9, le chapitre 9, nous voyons un peuple qui est revêtu de sacs, couvert de poussière, qui fait un jeûne. Et au verset 2, ils se sont séparés tous les étrangers de tous ceux qui ne veulent pas de ce Dieu vivant, de tous ceux qui ne veulent pas de la foi fondée sur la parole de Dieu, la Torah. Ils se présentèrent et confessèrent, se présentèrent devant Dieu bien sûr, confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Donc ils font un bilan. Pourquoi est-ce qu'ils font un bilan? C'est parce que toute cette déportation et la ville qui est ruinée, qu'il faut reconstruire, ça vient de la désobéissance à Dieu et ça a été annoncé en 1430-1420 par Moïse dans Deutéronome chapitre 27 et 28. Et bien sûr, il était normal de confesser que c'était de la responsabilité de tout ce peuple et de ceux qui les dirigeaient que tout ce malheur, ce désastre sur Jérusalem est arrivé. Mais il était normal aussi, après, de se réjouir et de se réjouir en Dieu. Verset 6, chapitre 9, verset 6. « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, et toute leur armée, donc les anges, la terre, tout ce qui est sur elle, les mers, tout ce qu'elles referment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Les anges. Lisez Apocalypse, chapitre 4 et 5, vous verrez que devant Dieu, tous les anges, les archanges, les saints, les croyants sont en train de se prosterner. Non pas par obligation, mais avec joie, par amour et reconnaissance. C'est toi, éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, sud de l'Irak, hein, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui. Alors, plus loin, à la fin du verset 8, tu as tenu ta parole et tu es juste. Pourquoi? Parce qu'il a donné à Abraham la terre d'Israël. Donc, vous avez un récapitulatif dans tout le chapitre 9 de tous les bienfaits de Dieu. De tous les bienfaits de Dieu qui se sont passés à travers l'Égypte, à la sortie d'Égypte, dans le désert, etc. Et vous avez la description, bien sûr, de la révolte, des désobéissances, etc. Mais vous avez l'affirmation que Dieu pardonne. Je prends le verset 28. Quand ils eurent du repos, quand tout allait bien, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais de nouveau ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde tu les délivras maintes fois, c'est-à-dire plusieurs fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, raidirent leurs couilles, n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, donc dans la conscience, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers, Babylone, puis les Mèdes et les Perses. Pour un certain temps, pour une sanction, pas pour un rejet total. Alors au verset 33, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Donc voilà, vous lisez le chapitre 9, vous allez vous rendre compte que la conscience se réveille. On fait le bilan. Et ce que je voulais dire, c'est que l'examen de conscience dans toute vie est nécessaire. Et il faut pouvoir faire la mémoire de tous les cadeaux, de tous les bienfaits que Dieu a faits. Nous sommes des aveugles, nous sommes des ingrats. Il faut prendre le temps, il faut prendre un cahier et noter. Est-ce que vous avez dit merci à Dieu pour le chant des oiseaux, pour les fleurs, pour le soleil? Est-ce que merci à Dieu parce que vous êtes levé aujourd'hui, vous n'êtes pas mort? Et pour les battements du cœur, etc. Il y a des millions de choses que nous recevons tous les jours. Et il faut faire mémoire de tous les bienfaits de Dieu. Et il faut regarder aussi ce qu'on a, nous, on n'a pas fait envers Dieu. Il faut demander pardon. Et reconnaître, admettre que quand on a été sanctionné par Dieu, souvent, on n'a pas été puni comme on l'aurait mérité. La sanction était dure, mais si elle avait été totalement dure, on ne vivrait plus. Ça, c'est le chapitre 9. C'est la prise de conscience, c'est la repentance. Faire mémoire des bénédictions divines, faire repentance, et ensuite passer un bon accord avec Dieu, faire alliance, lui promettre de vivre avec lui, en communion avec lui, dans le plus profond respect de sa parole et de sa personne. Ça, c'est chapitre 9. Donc, les amis, je pense que la joie, ce genre de joie, n'existe pas dans le langage du monde, dans l'orgueil de la vie. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans un premier épître, n'aimez pas le monde, ni l'orgueil de la vie, etc. Ce qui est dans le monde. Bon. Et donc, revenons toujours à ce verset qui est un peu singulier et qui est capable de renverser notre mentalité humaine. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Dieu a tellement de joie à pardonner. Dieu a tellement de joie à nous redonner une chance. Dieu a tellement de joie à nous démontrer sa bienveillance. Pourquoi est-ce que je suis si dur et si incrédule? Pourquoi est-ce que je m'y refuse? C'est une maladie spirituelle. Ça s'appelle le péché. Mais Dieu est un bon papa, un père. Prenez la parabole du papa qui a deux fils. Et un qui va tout dilapider avec les femmes, etc. Mais le père l'accueille, court après lui, le prend dans les bras, etc. Fait une fête. Donc, ne vous affligez pas. Ne restez pas dans la tristesse quand vous avez péché. Ne restez pas dans la tristesse quand vous avez connu des épreuves. Méritez ou pas. Mais fiez-vous à la joie de l'Éternel, à la bienveillance, au bon sentiment de Dieu à votre égard, à sa miséricorde qui dure pour 1000 générations. Comme Dieu l'a révélé dans Exode chapitre 33 à Moïse.
Soyons joyeux quand on jeûne.
Alors, Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des imposteurs sur la terre qui utilisent la joie. Et j'apprenais il y a 2 jours que la région Wallonne faisait 4 milliards de bénéfices avec tous les festivals ou festivals, toutes ces fêtes, boum, 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 qui courent à travers toute la Wallonie. Alors la Flandre, combien elle gagne aussi? 7 milliards, 6 milliards, je ne sais pas. Nous sommes devenus des spécialistes en Belgique et nous attirons les Allemands, les Hollandais, les Anglais et les Français de la joie. La joie organisée. Et c'est une joie qui dure combien de temps? On y vend de la drogue, il y a l'alcool, etc. Et puis, qu'est-ce qui s'y passe au niveau sexuel, etc. Bien sûr, il y a des gens très bien qui y vont. Mais, Paul l'a dit, méfiez-vous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On finit par qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Il est très difficile d'aimer Dieu et de chercher la joie en Dieu lorsqu'on va la chercher au niveau artificiel, avec plein de gens qui n'ont pas besoin de Dieu, qui ne le veulent pas. Et souvent, la joie est une fabrication de l'homme pour oublier Dieu. Je fais mémoire de Hitler qui, lorsqu'il a organisé les mouvements de jeunesse, Hitlerjugend, avait lancé un mot d'ordre, la force par la joie. C'était le mot d'ordre de tous ces garçons-là qui chantaient, ces filles-là qui chantaient, qui marchaient en rang, etc., qui sont devenus après des envahisseurs, des soldats, des massacreurs. La force par la joie. Où a-t-il été chercher ça? Dans Néhémie. Mais il l'a transformé. Il l'a transformé à son avantage. Et pourquoi? Parce qu'il avait été enseigné déjà, tout petit, dans une abbaye, par 2 prêtres qui étaient déjà dans l'occultisme et qui avaient la swastika sur leur chair approchée. Alors, chers amis, la joie peut être une fabrication démoniaque. La joie peut être une fabrication humaine, mais il y a la joie divine. Et c'est ce que je vous ai lu dans le premier texte, la première épître de Jean, chapitre 1. Versets 1 à 5. Alors, Jésus nous a promis et nous a certifié qu'il donnait une joie inaltérable. Nous allons aller lire Jean chapitre 16. La joie est un sujet très vaste. J'y reviendrai encore ce mercredi et ce vendredi à 18h. Sous d'autres formes, par d'autres voies, vous allez voir, c'est assez étonnant. Jésus nous a promis et certifié, garanti, le don certain de la joie. La joie qui est en Dieu, qui fait qu'elle devient notre joie. Donc une joie inusable. Jean chapitre 16, verset 16. « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. » Puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Donc Jésus mort à la croix, ressuscité ensuite, et puis qui monte au ciel. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit, etc. Ils pataugeaient, bien sûr, c'est normal, comme nous on aurait pataugé. Après, je vais plus loin, au verset 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Effectivement, les chrétiens étaient persécutés. Les chrétiens ont souffert. Les vrais chrétiens aujourd'hui, dans certains pays, qui se convertissent, sont persécutés. Et regardez bien l'image qui est donnée par Jésus. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie de ce qu'elle a, qu'un homme est né dans le monde. Donc l'image est claire. Le chrétien qui souffre aujourd'hui connaîtra une joie certaine, évidente. Il va avoir une nouvelle vie. Il va avoir une nouvelle vie. Et celui qui n'a pas cru, et qui n'a pas bien sûr encaissé l'épreuve, celui-là n'a pas de nouvelle vie. Il connaît les tourments éternels. Continuons verset 22. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Demandons la joie au Seigneur Jésus. Demandons la certitude de la joie, la certitude, le fondé dans la relation vivante avec Jésus, avec son Père. Demandons-la et attestons que nous la désirons vraiment. Ne faisons pas semblant, quelquefois nous intéressant à Dieu, en allant à tel culte ou à telle messe ou à tel rite. Ça, c'est du bidon, ça. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le demander sincèrement, le demander entièrement, sans retour, c'est la base du don de la joie. Alors, je voudrais vous inviter à faire attention aux versets qui suivent, aux versets 26 et 27. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc, le Père, Dieu le Père nous aime. La communion, l'amour entre Dieu et nous est rétabli chaque fois parce qu'on a aimé Jésus, sans retour et définitivement, sans regret. Que notre oui était oui. Non, fausse joie. Ça n'en vaut pas la peine. Non aux joies diaboliques, démoniaques. Non aux joies du monde. Alors, soyons prudents. Je vais aller dans Matthieu 5, et puis après je vous citerai des exemples vécus. Matthieu 5. C'est bien sûr les béatitudes. C'est un endroit que j'ai visité, qui est magnifique et paisible. Imaginez qu'on serait à Mont-Quintin, dans les prairies, là, qu'on est là, qu'il y a Jésus et qui prêche, à peu près ça. Chapitre 5 de Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, c'est à Capernaum, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pauvres en esprit, en pneumatico, c'est-à-dire qui se réfugient dans l'œuvre du Saint-Esprit, qui se laissent conduire par l'Esprit divin de Jésus. Il ne s'agit pas simplement d'être pauvre en esprit, humble, etc., et de faire des efforts, etc. C'est pas ça. Ça, c'est de la religiosité. Même si elle est louable, c'est pas ça. C'est celui qui se réfugie dans cet esprit. Il ne se réfugie plus dans les fausses joies du monde et dans les fausses vérités du monde. Il se réfugie dans la vérité de Christ et dans l'Esprit Saint de Christ. Puisque Jean-Baptiste l'avait dit, celui-ci vous baptisera d'eau et d'Esprit Saint. Alors, ça commence par cette onction du Saint-Esprit et cette attitude de réception, de vie participative, obéissante dans le Saint-Esprit. Ensuite, il est dit ceci, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Donc nous voyons clairement, comme dans Néhémie, que l'affliction est celle due aux injustices, aux souffrances qu'on nous fait subir. Je ne pense pas d'abord à celle-là. Je pense que l'affliction qu'il y avait chez Néhémie et la vraie affliction chez un chrétien, c'est de réaliser le nombre de fois qu'il a péché, qu'il s'est moqué de Dieu, qu'il vivait sans lui. Il arrive à un moment donné, quand on donne sa vie à Jésus, on se rend compte que derrière soi, dans tout ce qu'on a fait, il y a très peu de choses qui étaient faites pour lui, par amour. Très peu de choses qui étaient faites selon sa volonté. Et quand réellement on aime Jésus, on en pleure. Je ne vous cache pas que c'est encore le cas parfois pour moi. Je ne reste pas accablé, puisque Dieu a dit dans Néhémie que la joie de Dieu sera ma joie. Donc la joie de Dieu est ma joie. La joie de Jésus, pour moi, est ma joie. La joie, il m'aime. Il a donné sa vie pour moi, il est ressuscité. Et la joie de Jésus ressuscité, pour moi, est plus précieuse que mes rétroviseurs dans lesquels je regarde les mauvaises choses, les choses que je n'ai pas bien faites, que j'aurais dû faire autrement. Ça, c'est trop tard, de toute façon. Alors, tout le reste des béatitudes, nous y reviendrons dans la semaine, heureux, heureux, heureux. Il y a du bonheur dans tout ça. Aujourd'hui, je voudrais donner des cas concrets. Parce que c'est un petit peu fort, mais j'avais hébergé ici, avec mon épouse et les enfants, on avait d'autres personnes bien sûr, mais un jour une dame qui était très malheureuse, avec un enfant. Je devais aller chercher cet enfant à la sortie de l'école, et dans le feu de l'action, avec mon boulot, j'avais oublié. Et quand je m'en rends compte, une heure et demie après, je reçois les reproches de la maman, toute paniquée, parce que l'enfant était reparti chez son père, qui était assez spécial, assez dur, voire violent. Donc j'ai dû prendre mes responsabilités et aller voir ce monsieur pour réclamer l'enfant, pour le ramener chez nous, tout près de la maman. Et donc, quand je suis arrivé à la porte, j'ai toqué, et puis le rideau s'est tiré, a été ôté, j'ai ramassé des insultes et des menaces. J'ai continué à toquer, et la petite fenêtre du WC s'est ouverte. J'ai vu le visage démonté par la colère, et j'ai reçu des insultes. Et puis, j'ai continué à toquer, puisque je n'avais pas le choix. J'avais failli à ma parole en faire la maman. Et je voulais rechercher l'enfant. Et pratiquement, c'est la porte d'entrée qui possédait une fenêtre plus grande, avec des grilles en fer forgé. C'est cette petite fenêtre de 80 cm de haut sur 25 cm de large qui s'ouvre. Et là, je suis nez à nez avec le monsieur, qui réellement me menace. Et moi je reste, je priais, ensuite la porte s'ouvre, et je recule, et je prie au nom du Seigneur Jésus, pour que la colère de cet homme disparaisse, pour que cet enfant revienne tout près de la maman, pour que la gaffe monumentale que j'avais faite soit réparée. Je priais, et au fur et à mesure que je reculais tout doucement, je ramassais des insultes. Tu es un incapable, tu es un fainéant, tu as toujours profité des autres, etc. Tout y est passé. Je me suis retrouvé au milieu de la route, insulté. Et plus je reculais, plus je me rendais compte, les amis, plus je me rendais compte que j'avais un grand bonheur à être insulté, parce que tout ce qui était sorti était faux. Et que ce qui était là, tellement faux, que Jésus pouvait montrer à cet homme-là que c'était faux, et que c'était tellement faux, c'était tellement mensonger, qu'il se repente. Et j'ai prié pour qu'elle se repente. Puis je suis parti sans l'enfant. Je suis rentré à la maison, tête basse, et j'étais là à table avec la famille et cette dame. Lorsque, 10 minutes après, le téléphone sonne, et ce monsieur, qui m'avait insulté, me téléphone en me disant « Je te demande pardon, Jean. Tout ce que j'ai dit est faux. » Ben je lui dis, mais écoute, je le pense bien, mais je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, ne te tracasse pas. Tu sais, moi j'aime Jésus, je ne peux pas t'en vouloir. Je sais très bien que ça arrive, ces choses-là. Encore 10 minutes, un quart d'heure, un coup de téléphone. Le même monsieur qui me demande, est-ce que je peux venir manger à table avec vous? Et donc ce monsieur est venu à table, on a mangé ensemble. Et plus tard, cet homme a accepté Jésus et a été baptisé. Mais regardez à quel point l'affliction subie en pleine rue devant tout le monde. Il y a des gens dans la rue qui rigolaient de moi, qui rigolaient de la scène, qui se marraient bien. Et c'était en gomme. Il y a toujours des gens pour se marrer quand quelqu'un souffre. Et j'étais heureux de savoir que Jésus avait souffert de la même manière et qu'il avait eu la victoire. Quand l'excès du pécheur est tellement grand qu'il lui explose dans la conscience, Ce pécheur se rend compte qu'il doit changer et Dieu lui montre qu'il fait faux chemin. Et donc, un chrétien qui subit des afflictions est un instrument de Dieu pour changer les pécheurs dans des situations particulièrement difficiles, mais le Saint-Esprit console le chrétien qui est affligé. Et la joie du Seigneur brille dans le cœur de ce chrétien qui a été affligé. Parce que finalement, le résultat est étonnant. Et au-delà de toute espérance, c'est la joie de Dieu qui est venue dans le cœur de cet homme, de cette femme et de cet enfant. C'est la joie de Dieu qui est venue dans mon cœur. Donc la joie de l'Éternel sera votre joie. J'avais très dur lorsque j'étais ouvrier dans la construction métallique. Parce que c'était tous des gens, il y avait des braves gens, mais il y avait aussi des gens très durs, très vulgaires, et assez égoïstes. Il fallait travailler avec eux, et ils parlaient en wallon, et ils se moquaient de moi. En même temps, ils me craignaient, parce que j'étais prêtre ouvrier à cette époque-là, mais j'ai vu que ces souffrances-là, Dieu les avait vues. Vous savez comment ? Parce qu'un jour, pendant la nuit, je suis rentré dans une église en jour du soir, qui n'était pas mon église. Le prêtre ouvrier n'a pas d'église, de bâtiment. C'est les prêtres de paroisse classiques qui ont des bâtiments communaux entretenus par la commune. Mais le prêtre ouvrier, sa paroisse, c'est le chantier. C'est l'usine où il travaille, c'est tout. C'est les humains. Et donc, j'étais rentré dans cette église, j'y suis resté toute la nuit. Et au fur et à mesure du temps, je déposais tous mes fardeaux. Et tous les murs, tout s'est couvert de lumière, comme d'une neige brillante. Pour moi, j'appelle ça ma nuit d'or. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je suis reparti, je n'avais pas dormi 5 minutes. Je suis parti à 6h15 travailler, en pleine forme. C'était une nuit d'or. Ma vie était éprouvée par la difficulté, et Dieu m'avait mis sa gloire. Sa gloire était dans mon cœur quand je suis parti travailler pour aimer ces hommes. Et il y a eu des résultats dans la vie de ces hommes. C'est pour ça que je veux dire, je donne ce témoignage, qu'il ne faut jamais désarmer quand on aime Jésus. Parce que nous avons un Dieu vivant et victorieux. Jésus est victorieux sur la mort, sur les œuvres de Satan, sur le péché. C'est une question de temps et de patience et de foi. De nombreux réfugiés sont sur la terre, circulent dans tous les sens, souffrent, et ils sont refusés en Europe, à l'île de Lesbos, et partout. Ils sont refusés. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous perdu la joie d'aimer notre prochain ? Pourquoi avons-nous perdu la joie de reconnaître les autres comme nos frères ? Pourquoi avons-nous perdu le sens de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. J'étais nu, j'étais affamé, j'étais prisonnier. Matthieu 25, verset 31 à 45. J'étais prisonnier, j'étais étranger. Quand avons-nous vu, Seigneur ? Mais chaque fois que vous avez donné à boire à celui-là, vous l'avez vêtu, vous l'avez visité, vous l'avez recueilli. C'est à moi que vous l'avez fait. La joie du Seigneur est immense. Car quand le Maître reviendra, il déposera toute sa joie pour l'éternité dans mon âme. Déjà, il y a de la joie à lui obéir. Déjà, il y a de la joie à l'aimer. Déjà, il y a de la joie à faire sa volonté. Mais il y a des afflictions avec, des difficultés, des incompréhensions du milieu. Mais il y a une profonde joie qui est certaine, sûre et certaine, et que les autres n'ont pas. Quel grand malheur pour eux de ne pas avoir cette joie. Donc, je pense que l'incrédulité, c'est-à-dire le cœur fermé, la dureté de cœur, prive l'homme de la seule vraie joie que Dieu a toujours destinée à l'homme. L'incrédulité, le cou raide, la nuque incirconcise, nous prive de la joie divine, de la joie durable, de la joie plénière. Nous reviendrons à cela mercredi et vendredi. Mais la parole de Jésus peut engendrer en moi la foi. La parole de Jésus peut me retourner et m'amener à ce chemin de joie et de foi. À 16 ans, alors que j'étais assez triste de ma vie, après 2-3 déceptions, etc., et puis l'ambiance à l'école, etc., la dureté de certains professeurs aussi, l'indifférence à l'égard des élèves, tout cela, la perte d'un ami ou deux aussi, m'avait amené à beaucoup de mélancolie et d'amertume. Et quand une tante m'a offert le Nouveau Testament, que j'ai lu en cachette, il est resté un verset qui m'a donné la joie, pour toujours. Celui qui me donne sa vie la sauvera, celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra. Voilà la source de la joie. Suivre Jésus et nous donner à lui. Donner notre vie à Jésus. Ça, c'est la joie. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de Jésus. Où tu n'auras plus rien du tout un jour. Tu auras tout perdu. Et quand on regarde la première église, elle est formidable par sa joie. Alors qu'elle est persécutée.
Apocalypse.
Non, pas Apocalypse. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Verset 37. La première église a énormément souffert. Et pourtant, elle était dans la joie. Acte 2, verset 37. Oui. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, repentez-vous donc, changez de vie, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. C'est ce que je viens de faire avec vous. Disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire, ne vivez pas comme ce monde qui est en train de se perdre. Dans des fausses valeurs. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples, des enseignés, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Je vais à la fin, au verset 47, 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Regardez la joie. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on ne rentre pas dans l'église de Jésus-Christ avant d'être sauvé. Il faut d'abord avoir accepté le Seigneur Jésus et la joie de l'aimer. C'est extrêmement important. Au chapitre 3, verset 1, il y a la guérison d'un homme boiteux de naissance à l'entrée d'un temple. Cet homme est guéri parce que Pierre et Jean disent tout simplement, Pierre dit au verset 6, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. C'était pas le signe de la joie ? La joie du ressuscité qui l'a aimé. C'est pas simplement la joie d'être guéri. Parce qu'il serait sorti du temple, il aurait été courir, gambader autre part. Il est rentré dans le temple où on adore Dieu. C'est la joie d'être aimé de Dieu et d'avoir vu la main du Dieu vivant par Jésus-Christ ressuscité. Alors je vous invite, chers amis, à couvrir votre cœur, votre âme, durant les heures qui viennent, cette nuit jusqu'à mercredi, de cette joie du Seigneur. Laissez-la venir dans votre âme. Celui qui me donne sa vie la sauvera, celui qui va la conserver pour lui-même la perdra. À bientôt et merci de votre patience. Je suis un peu long, excusez-moi.